Parlons miracle maintenant. Certains miracles, par exemple, le fruit miracle et la miraculine. C'est pas un vrai miracle. En fait, c'est une fruit, c'est une molécule. Et lorsqu'on les mange, elles transforment tout ce qui goûte acide en goût sucré. Un peu, Robert, comme si on buvait du vinaigre, j'imagine. Puis d'un coup, ça devenait comme du vin dans la bouche, un vin sucré.
Le test serait sur plus le citron, je dirais.
Oui, le citron étant...
Ouais, une tolérance à l'acide avec cette miraculine, mais on aurait comme
une limonade.
Une limonade, c'est exactement ce qui se passe. C'est un mirage, en fait. C'est un fruit qui trompe nos récepteurs de goût et ça pousse en Afrique. Ça fait longtemps qu'on en consomme là-bas. C'est ce que m'a confirmé le directeur de recherche du Centre des sciences du goût et de l'alimentation de l'Université de Bourgogne à Dijon, Loïc Briand. Il étudie les mécanismes de la miraculine et je les joins à Dijon.
Oui, oui, c'est un fruit qui existe réellement, donc qui est originaire d'Afrique de l'Ouest et qui a donc la propriété vraiment surprenante de transformer le goût acide en goût sucré.
Et ça fait longtemps qu'on le sait là-bas, ça fait longtemps qu'on le mange pour ça d'ailleurs.
Donc il est connu depuis très très longtemps. En fait, la première publication qui décrit cet effet date de 1852. En fait, c'est un Anglais qui était chirurgien, qui s'appelait Monsieur Daniel, qui a décrit pour la première fois les propriétés vraiment surprenantes de ce fruit. Mais cet effet-là était connu par la population indigène depuis sans doute plusieurs siècles au moins. Moi, j'ai eu l'occasion, en faisant des cours, de rencontrer des étudiants africains qui me disaient « on connaît très bien ce fruit-là, c'est un jeu de jouer avec ce fruit et donc on a ces sensations gustatives ». Alors... C'est vrai qu'en termes d'application, on a assez peu de données là-dessus.
Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a un ordre dans lequel il faut jouer avec le fruit.
Exactement. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord mâcher le fruit. Et là, en fait, il y a assez peu de saveur. C'est-à-dire que la protéine qui est responsable de l'effet, la miraculine, n'a pas de saveur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle se fixe sur les récepteurs, enfin sur le récepteur au goût sucré, mais sans être capable de l'activer. Donc là, il n'y a aucun effet. Par contre, lorsqu'on va prendre une solution acide ou par exemple du citron vert, eh bien, on va avoir une forte sensation de sucré. Et en fait, elle transforme comme ça le goût acide en goût sucré. Ce que l'on sait, c'est que la protéine donc, se lie au récepteur et en fait, elle détecte l'acidité et sans doute qu'elle change de conformation et elle est capable d'activer le récepteur. Et comme elle a une très forte affinité pour le récepteur, elle va rester sur le récepteur. Et c'est comme ça que l'effet va durer, de 1 à 2 heures.
Bon, cette molécule-là vous intéresse. On va savoir un petit peu plus tard exactement en quoi elle vous intéresse. Mais ça nous aiderait peut-être de comprendre ce monde de nos récepteurs des goûts, justement. Il y a 5 goûts, on dit maintenant, et il y a des récepteurs précis pour chacun d'entre eux.
Oui, c'est ça. Donc, on est donc capable de détecter 5 saveurs primaires. Je peux peut-être les rappeler.
Oui.
Donc, le salé, l'acide, l'amer... Donc il y a la saveur umami qui est un petit peu moins connue, c'est la saveur caractéristique de certains acides aminés tels que le L-glutamate, qui est utilisé comme exhausteur de goût. Et puis la dernière saveur, c'est le sucré. Donc ce que l'on sait, c'est qu'on a en fait 2 grands types de détecteurs. On a d'un côté des canaux ioniques pour détecter le salé et l'acide. Pour détecter l'amertume, on a 25 récepteurs, qui sont des récepteurs qui sont très sensibles. Et en fait, ce qui est important pour l'amertume, c'est que de nombreuses molécules amères sont potentiellement dangereuses. Donc c'est une façon de nous protéger de molécules qui peuvent être toxiques. Donc c'est pour ça qu'on a 25 récepteurs qui nous permettent de détecter l'ensemble des molécules qui sont amères. Et ce sont des récepteurs qui sont très sensibles.
Et pour le sucré, il y en a
pour
beaucoup moins.
Pour le sucré, oui. Nous avons un seul, ça c'est assez surprenant, mais nous avons un seul récepteur au goût sucré. Donc ça a été une vraie surprise. On sait que des molécules assez diverses chimiquement peuvent générer un goût sucré. Bien sûr, il y a les sucres naturels, mais il y a de nombreuses molécules qui sont très différentes du sucre, comme par exemple l'aspartame, comme la saccharine. Il y a même certaines protéines qui sont sucrées. Donc ce sont des molécules qui sont très différentes. Et donc on s'attendait en fait à posséder plusieurs récepteurs. Et en fait, c'est au début des années 2000 que le récepteur au goût sucré a été identifié. Et ça a été un petit peu une surprise de découvrir qu'un seul récepteur était capable de détecter toutes ces molécules.
Incroyable. Alors, un récepteur pour le goût sucré, 25 récepteurs pour les saveurs qui sont plutôt amères.
Oui,
et tout ça, on parle de la langue. C'est où dans notre corps?
Donc, le récepteur au goût sucré, il a été tout d'abord, évidemment, découvert dans la bouche. comme on pouvait s'y attendre, mais de façon très surprenante. Dans les années qui ont suivi sa découverte, on s'est rendu compte qu'il était exprimé dans de nombreux tissus. Donc il a été mis en évidence dans l'intestin, dans l'estomac, mais aussi dans les tissus adipeux. Encore plus récemment, il a été identifié dans le cerveau. Alors le rôle de ce récepteur dans ces différents tissus, il n'est pas encore complètement connu, mais ce que l'on pense en fait, c'est qu'il a un rôle dans la régulation métabolique. C'est-à-dire que le rôle finalement du récepteur au goût sucré, c'est de détecter naturellement les sucres qui sont une source d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on est attiré par le sucre et que donc la perception est aussi associée au plaisir, à la récompense. Donc c'est très important. Donc ça c'est au niveau de la langue. Mais ensuite, dans le corps, c'est aussi un rôle de détecter le sucre. C'est une façon de détecter l'énergie dans le corps. Et par exemple, ce qui a été montré dans l'intestin, c'est que le récepteur au goût sucré va détecter les sucres et cette détection va entraîner la surexpression d'un transporteur de glucose qui va permettre l'absorption du glucose dans le sang.
Alors on se rend compte qu'on a besoin de ces détecteurs de sucre un peu partout dans le corps et pas seulement dans la bouche. C'est fascinant et c'est ce détecteur en particulier que va chercher, sur lequel va envoyer les saveurs acides que l'on mange après avoir ingurgité du fruit miracle et particulièrement la fameuse miraculine dont on parlait au début. Et c'est ce processus-là, c'est cette tromperie-là qui vous intéresse, Loïc Briand.
Voilà, donc nous on essaie de comprendre comment fonctionne le récepteur, évidemment, donc ça c'est des questions un petit peu fondamentales. Ensuite, il y a des applications qui peuvent déboucher de nos travaux. Alors évidemment, la miraculine, ça peut peut-être devenir donc le futur nouvel édulcorant, parce que c'est un édulcorant qui est naturel. Donc là, il y a un intérêt de ce côté-là. Il y a aussi un autre aspect qui nous intéresse, c'est que donc le fait que ces récepteurs au goût sucré soient aussi présents dans de nombreux tissus soulève en fait l'intérêt de trouver des inhibiteurs. C'est-à-dire que si on inhibe par exemple le récepteur au goût sucré dans l'intestin, ça veut dire qu'on va réduire l'absorption de glucose. Donc là on voit bien qu'il y a un intérêt pour donc les gens qui sont atteints de diabète, éventuellement aussi pour lutter contre l'obésité. Et en fait ce qui se passe, c'est que la miraculine, lorsqu'elle est fixée sur le récepteur, en fait elle se comporte aussi comme un inhibiteur. C'est-à-dire qu'à la fois, elle va transformer l'acide en sucré, mais en même temps, elle bloque aussi la perception du sucre. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt d'utiliser aussi la miraculine comme peut-être inhibiteur du récepteur au goût sucré.
Et ça ressemblerait à quoi comme application dans l'alimentation? On parle de régime minceur, vous parlez de personnes diabétiques, on parle d'édulcorants, on pourrait retrouver quoi, la miraculine par exemple, dans le chocolat?
Bon, le chocolat, je ne sais pas, mais on peut imaginer par exemple que dans une boisson, donc ça veut dire qu'une boisson qui ne contient pas de sucre, il suffit qu'elle soit acide et elle devient sucrée.
Donc un jus de citron, on pourrait dire jus de citron pur.
Et la seule difficulté, c'est qu'il faudrait que la miraculine soit mise en bouche avant. C'est un petit peu ça qui limite son utilisation.
Effectivement, c'est dans l'ordre du jeu.
Voilà, c'est-à-dire que si elle est consommée acide, dans ce cas-là, on a une perception qui est sucrée, mais on n'a pas cet effet qui dure dans le temps. Donc c'est vrai qu'en termes d'application agroalimentaire, pour l'instant, c'est assez limité. Il y a un autre aspect qui peut être aussi intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a de nombreux patients donc, qui subissent des chimiothérapies, ont des problèmes de perturbation de leur goût, notamment avec l'apparition de goûts désagréables. Donc ça, c'est un autre aspect qui peut être intéressant, c'est qu'avec la miraculine, on peut imaginer améliorer la perception de certains aliments. Parce que si le goût est perturbé, ça veut dire que les gens donc, vont s'alimenter moins bien. Et donc s'ils perdent le goût donc, de l'alimentation, du coup, ils vont pouvoir s'affaiblir ou être en déficit nutritif.
Et augmenter la quantité d'aliments qui ont ce goût sucré que nous, humains, on aime beaucoup, ben, ça peut aider des personnes dénutries à se renourrir un peu.
Voilà, c'est une des applications possibles.
Est-ce qu'il faut absolument le fruit miracle qui pousse, je crois, surtout en Afrique, pour avoir de la miraculine?
Alors bien sûr, donc il y a la source naturelle, donc c'est un arbre qui se développe dans les régions tropicales. Je sais qu'il est cultivé en Floride, mais il faut évidemment donc soit un pays qui a un climat qui s'adapte, soit utiliser des serres. Nous, ce qu'on essaie au laboratoire, c'est d'utiliser des levures que l'on manipule de façon à leur faire exprimer la miraculine. Donc là, on est en train de faire des travaux là-dessus, mais c'est une protéine qui est quand même un petit peu compliquée, qui est elle-même glycosylée, donc il y a des difficultés, mais on travaille là-dessus.
On imagine que c'est votre plaisir, en tout cas vos défis, ces difficultés-là au laboratoire dont vous parlez. Merci beaucoup, Loïc Briand.
Merci à vous.
Loïc Briand est directeur de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. C'est à l'Université de Bourgogne et cette université